Alors, voyons tout de suite la réponse. Vous voyez qu'il y a sept objections. Hein. On est devant quelque chose de particulièrement délicat. Nous lisons dans Boès, tout être est un. Sous le rapport où il est être, Boès reprend Aristote. Hein. Ça, c'est dans le livre des deux natures. Omne quod est, in quantum est, unum est. Ça, c'est une très belle formule. Omne quod est, in quantum est, unum est. Donc, dans la mesure même où il est un. Tout être, dans la mesure même où il est un. Donc, votre composition, puisque l'être humain est composé, votre composition va dans un sens inverse de votre être. Puisque dans la mesure où il est un. Et donc dans la mesure où il est composé, il n'est pas un. Et donc dans la mesure où il est composé, il n'est pas. Bien obligé de l'admettre. Ne soyez pas fier de votre composition. Soyez fier de votre unité. Ça, c'est le képi qui s'ajoute, vous voyez. C'est la composition. La nature considérée en elle-même et exprimée sous une forme abstraite ne saurait être attribuée au suppôt ou à la personne, si ce n'est en Dieu, où ce qui est et ce par quoi il est sont identiques, Dieu et Deitas. Ainsi que nous l'avons montré dans la première partie. Or, dans le Christ, il y a deux natures, la divine et l'humaine. L'une d'elles, la nature divine, peut lui être attribuée aussi bien sous une forme abstraite que sous une forme concrète. Nous disons en effet que le Fils de Dieu, ou que le Christ, est sa nature divine et qu'il est Dieu. Mais la nature humaine ne saurait être attribuée en elle-même et abstraitement au Christ. Elle ne peut l'être qu'au concret, par le moyen d'un nom signifiant qu'elle est hypostasiée. On ne dit pas en effet que le Christ est sa nature humaine, car la nature humaine n'est pas attribuable à son suppôt. Oui. Car la nature humaine n'est pas attribuable à son suppôt, mais on dit que le Christ est homme de la même manière que l'on dit que le Christ est Dieu. Par rapport au suppôt, c'est évident. Par ailleurs, le mot « Dieu » signifie « celui qui possède la divinité ». Le lien entre la divinité et le point de vue de Dieu. Aliter. Donc, par ailleurs, le mot « Dieu » signifie « celui qui possède la divinité » et le mot « homme », « celui qui possède l'humanité », sans autre précision. Au contraire, les mots « Pierre » ou « Jésus » signifient un sujet humain d'une façon précise et avec des propriétés individuelles déterminées. Le mot « Fils de Dieu » désigne un sujet divin avec une propriété personnelle précise. Ceci posé, l'on doit reconnaître qu'il y a une dualité dans le Christ quant à ses natures. C'est pourquoi, si les deux natures pouvaient être attribuées au Christ sous une forme abstraite, il s'ensuivrait que le Christ serait une dualité. Mais puisqu'elles ne peuvent l'être qu'en tant qu'elles sont hypostasiées, l'unité ou la pluralité se diviseront, ne se diront du Christ qu'en raison du suppôt. Or, certains auteurs ont prétendu qu'il y avait dans le Christ deux suppôts ou une personne unique, et une personne unique, la personne n'étant d'après eux que l'ultime complément du suppôt. Dès lors, à les entendre, en raison des deux suppôts, le Christ serait deux, si l'on met le mot « deux » au neutre. Au contraire, à cause de l'unité de personne, le Christ serait un, en mettant le mot « un » au masculin. Le genre neutre, en effet, désigne quelque chose d'uniforme et d'imparfait. Le genre masculin, quelque chose de parfait et d'achevé. Les Nestériens, de leur côté, qui mettaient dans le Christ deux personnes, prétendaient qu'il était deux en prenant le mot aussi bien au masculin qu'au neutre. Mais nous, qui plaçons dans le Christ une certaine personne et un suppôt unique, nous disons que le Christ est un en prenant le mot un non seulement au masculin, mais même au neutre. Vous voyez comment saint Thomas précise « si j'attribue à Dieu l'unité et la dualité ». Comment je peux attribuer la dualité à Dieu, à Jésus, je veux dire, en raison des deux natures. Il y a une certaine dualité dans le Christ, puisqu'il y a nature humaine, nature divine. Mais si je regarde le Christ tel qu'il est dans son suppôt, c'est-à-dire dans sa personne tel qu'il est concrètement, je dois dire qu'il est un. Parce qu'il n'y a pas de suppôt, parce qu'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de personne. Vous voyez comment ? Et c'est intéressant, c'est toujours la même question, hein, c'est en raison même de la structure de l'être du Christ que je dis un et deux. Je veux dire les deux du Christ. Si je me place du côté non pas de l'être, l'être c'est en définitive laisser ce qui existe. Si je ne me place pas du côté de l'essai, mais que je me place du côté de la composition interne du mystère du Christ au niveau des natures. La nature implique une forme. Et non pas directement l'être. C'est un être contracté, précisé. Du côté des natures, je dirais deux natures. Et du côté du suppôt, je dis qu'il y a un être. C'est assez net, hein, je crois, dans le langage de Saint-Thomas. Je dis ça, c'est intéressant, parce que c'est l'article suivant où il y aura des positions thomistes diverses. Alors c'est pour ça qu'il faut être attentif à la question ici. Bien voir ici le partage des autres, c'est très simple, c'est tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. C'est une simple conclusion par rapport au rapport de l'être, le rapport de l'un et de l'être. Donc du côté des natures, il y a une dualité, et du côté de l'être, il y a l'unité. Alors, je vois tout de suite ma réponse au texte de saint Augustin. Dans le texte cité de saint Augustin, l'on ne doit pas entendre l'expression « l'un et l'autre » à la manière d'un prédicat, comme si l'on disait « le Christ est l'un et l'autre », mais à la manière d'un sujet. En ce sens, « l'un et l'autre » est mis non pas pour deux suppôts, mais pour deux noms signifiant les deux natures au concret. Je peux dire en effet, l'un et l'autre, c'est-à-dire Dieu et l'homme, et Dieu en raison de Dieu qui assume. Et l'un et l'autre, à savoir Dieu et l'homme, est homme en raison de l'homme assumé. Tout simplement comprendre l'un et l'autre où ça se situe. Si l'un et l'autre se situent, c'est ça, vous voyez, si vous le prenez comme un attribut ou si vous le prenez tout simplement comme un sujet. En ce sens, l'un et l'autre est mis non pas pour deux suppôts, mais pour deux noms signifiés. Si vous le considérez justement de cette manière-là. Parce qu'alors vous pouvez dire que le Christ est l'un et l'autre. Il est à la fois deux dans sa nature, il est un comme suppôt. Il est à la fois homme et il est à la fois Dieu. Je crois que ceci n'a pas de grosses difficultés, puisque ça a été vu précédemment. Je vois tout de suite, parce que là, on va s'attarder un tout petit peu, y a-t-il dans le Christ unité d'être ? unum esse. Alors, je prends le langage de saint Thomas d'ici. C'est une question très délicate. C'est la question de l'esse. Vous voyez comment saint Thomas pose la question. Regardez toujours dans le prologue. Hein. C'est dans le prologue que c'est posé d'une façon, parce qu'on a ajouté les titres après. Y a-t-il dans le Christ unité d'esse? Utrum Christo sit tantum unum esse. Tantum unum esse. Rien n'est même. Tantum. Y a-t-il dans le Christ seulement un esse? Tantum un esse. Alors, selon Damascène, tout ce qui est une conséquence de la nature implique dans le Christ une dualité. Mais l'être est une conséquence de la nature, car il est donné par la forme. Il doit donc y avoir deux êtres dans le Christ. Vous voyez là la difficulté. Hein. Et c'est bien énoncé par saint Jean Damascène. Est-ce que l'essai, toute la question est là, est-ce que l'essai se rapporte en premier lieu au suppôt, à la substance, à l'hypostase, au suppôt, ou à la nature, à la forme? Si l'essai se rapporte directement à la nature, je dirais deux. Si l'essai se rapporte directement au suppôt, je dis 1. Je crois que c'est facile à comprendre. C'est la question de savoir, du point de vue de l'essai. L'essai actus est sindi, hein, l'exister. On peut traduire l'exister. L'exister, l'être. Est-ce qu'il se rapporte immédiatement au suppôt? Est-ce qu'il se rapporte immédiatement à la nature? Vous voyez que c'est très simple, c'est plus complexe que ça. Parce que il se rapporte au suppôt par la nature. Il y a le quoi et le pour. Vous souvenez cette petite. Ça, c'est de Boès, que saint Thomas reprend toujours. Il y a ce qui existe et ce par quoi j'existe. Ce qui existe, alors l'essai se rapporte directement au suppôt, en tant que quoi? L'essai se rapporte au suppôt immédiatement par la nature. Alors vous voyez que ce lien est tout à fait particulier, c'est qu'il y a un lien immédiat par rapport au quoi, mais par l'intermédiaire du quoi. Si c'est par l'intermédiaire du cours, c'est le cours qui spécifie. C'est la nature qui spécifie. Donc s'il y a deux natures, ben, il y a deux cours. Alors est-ce que c'est l'unité du suppôt qui l'emporte ou est-ce que c'est la dualité de la nature qui l'emporte? Et alors là, vous voyez bien la difficulté, n'est-ce pas? Si vous prenez. Il faut passer par le cours et le quad. Hein. Or, le quad est plus formel que le quoi. Donc, selon un langage précis, je dois regarder la nature et non pas le suppôt. Le suppôt, c'est matériel. Or, je suis dans un langage précis, puisque je suis dans un langage en théologie scientifique. Alors, restant en théologie scientifique, je dois dire deux essais. Ou dire un essai. Je dis alors là, à l'intérieur de ceux qui veulent être fidèles à saint Thomas, à l'intérieur de ceux qui veulent être fidèles, il y a deux positions. Il y a ceux qui affirment l'unique essai, ceux qui affirment deux essais. Et en fonction des textes même de saint Thomas. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui ne sont pas très très précis. Vous savez, au point de vue des textes, on peut tout dire. Alors il faut aller au-delà du texte et découvrir la doctrine de Saint Laurent. Je crois que c'est la seule solution. Autrement, c'est impossible. On pourrait discuter indéfiniment sur les textes. Indéfiniment. C'est intéressant, du reste, que voir même dans Saint Thomas. Alors certains disent qu'il y a une évolution dans Saint Thomas. Il y a eu d'abord l'affirmation de deux, puis après d'un. Ou plus exactement, d'abord l'affirmation d'un, puis de deux après. Dans Saint Thomas, plutôt. Alors, il y a une école. Bon, le père Nicolas, qui enseignait à Fribourg, la théologie, était pour les deux essais. Le père Garrigou est pour l'unique essai. Tous les anciens sont pour l'unique essai. C'est très moderne, ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est très moderne. Ici, on peut dire que la grande tradition est pour l'unique essai. Je ne crois pas que dans la grande tradition, il y en a qui affirment deux essais. C'est tout à fait moderne. Et là, on comprend très bien comment c'est moderne. C'est qu'on veut à tout prix, c'est le mouvement d'aujourd'hui, pas. Vous savez bien qu'il y a toujours, toujours, hein, dans le théologie du mystère du Verbe incarné, où on met l'accent sur le Verbe, où on met l'accent sur la nature. L'école d'Antioche, l'école d'Alexandrie. Hein. C'est ça, se retrouve tout le temps. Alors, je ne dirais pas l'école de France, l'école de Rome, n'est-ce pas ? Alexandrie d'Antioche, mais je dirais que, de fait, aujourd'hui, on insiste énormément sur le point de vue de la personne, sur le point de vue de l'homme, sur le point de vue de la nature humaine, par le point de vue psychologique. C'est tous ces problèmes de la conscience. Est-ce que le Christ avait conscience d'être Dieu ? Est-ce qu'on insiste énormément sur le point de vue de la nature humaine, sur le point de vue psychologique ? Et alors, insistant beaucoup sur cela, on met très en lumière les deux natures. D'où la conséquence des deux essais. Si on met très en lumière le point de vue du suppôt, le Verbe devenu chair, on est incliné avec un essai. C'est intéressant de voir ça, hein, parce qu'il ne faut pas... Les conclusions, très bien, il ne faut pas se battre sur les conclusions. Ça ne sert à rien de se battre sur les conclusions. Il faut essayer de comprendre et de remonter à la source. Et de voir si, de fait, dans l'enseignement de saint Thomas, on est incliné vers un essai ou vers deux essais. Alors, voyons cet article le plus objectivement possible, sans aucun a priori. Laissez les a priori à la porte, laissez vos amitiés, votre affectivité à la porte et essayez de comprendre ce que nous dit saint Thomas. Cependant, toute réalité, dans la mesure où elle mérite le nom d'être, est une, car l'unité et l'être sont convertibles. Si donc il y a deux êtres dans le Christ, il faudra dire que le Christ n'est pas un, mais qu'il est une dualité. Très général, ça, hein ? Sauvegarder l'unité du Christ. C'est net. Christ est une personne, donc il est un dans son être. Ça, c'est gros, c'est très gros, mais c'est du bon sens chrétien. Hein, c'est du bon sens chrétien, tout simplement. Dans la mesure où elle mérite le nom d'être, une réalité est une, car l'unité et l'être sont convertis. Alors voici le raisonnement du théologien, un peu plus subtil. Puisque dans le Christ, il y a deux natures et une hypostase, donc hypostase, toujours le mot personne, une hypostase unique, tout ce qui se rapporte à la nature implique nécessairement en lui une dualité. Au contraire, tout ce qui se rapporte à l'hypostase est un. Or, l'essai, essai-otem, or, l'essai relève à la fois de l'hypostase et de la nature. De l'hypostase, car l'hypostase est ce qui possède l'être. De la nature, car la nature est ce par quoi, le quo. Quod quo, voyez. Quelque chose possède l'être. Nous nous représentons, en effet, la nature de la, manière d'une forme, à la manière d'une forme. Et lui donnons le nom d'être parce que par elle, quelque chose est. Ainsi, par la blancheur, une réalité est blanche. Par l'humanité, un individu est homme. Il convient de remarquer en outre que lorsqu'une forme ou une nature n'appartient pas en propre à l'être personnel d'une hypostase subsistante, l'être de cette forme ou de cette nature ne doit pas s'attribuer purement et simplement à la personne en question, mais simplement sous un certain rapport. Ainsi, l'être qui revient à Socrate du fait de sa blancheur ne lui appartient pas en tant précisément qu'il est Socrate, mais en tant qu'il est blanc. Le « en tant que » est très intéressant. Je formalise, comment se fait-il qu'il y a ça ? À ce point de vue, rien n'empêche de multiplier l'être dans une hypostase ou une personne. Autre, en effet, est l'être qui fait de Socrate un individu blanc, et autre l'être qui le rend musicien. Or, on ne saurait, au contraire, multiplier l'être, qui appartient en propre à l'hypostase ou à la personne, car à une réalité unique, doit répondre un être unique. Si donc la nature humaine était unie au Fils de Dieu, non pas hypostatiquement ou personnellement, mais accidentellement, comme certains l'ont entendu, il faudrait placer dans le Christ deux êtres. L'un qui ferait de lui un Dieu, l'autre qui ferait de lui un homme. Ainsi plaçons-nous dans Socrate un être selon lequel il est blanc et un autre être selon lequel il est homme. Car le fait d'être blanc ne rentre pas dans le constitutif même de l'être personnel de Socrate. Par ailleurs, le fait d'avoir une tête, d'être corporel, d'être animé, tout cela constitue la personne de Socrate et lui compose un être unique. Supposons même qu'une fois la personne de Socrate constituée, il lui advienne des mains et des pieds ou des yeux, comme on pourrait le concevoir dans le cas d'un aveugle né. Socrate n'en acquérerait pas pour autant un nouvel être, mais seulement une certaine relation à ses différents membres, nous disions qu'il est désormais non seulement sous le rapport des éléments qu'il possède déjà, mais encore sous le rapport des éléments nouvellement acquis. Or, la nature humaine est unie au Fils de Dieu hypostatiquement ou personnellement, mais non accidentellement, ainsi que nous l'avons montré. Il ne résulte donc pas de ce fait que pour le Fils de Dieu un nouvel être personnel, mais une nouvelle relation de son être personnel préexistant à la nature humaine. En d'autres termes, la personne du Fils de Dieu subsiste désormais non seulement sous le rapport de la nature divine, mais même encore sous le rapport de la nature humaine. Vous voyez comme c'est fort. Et c'est très intéressant, saint Thomas met tous les cas particuliers, si vous êtes attentif. Et que c'est toujours en référence du mystère de l'union hypostatique, donc qui ramène tout à l'unité d'une personne, que saint Thomas dit unité d'être. Autrement dit, la question de l'essai par rapport au suppôt et par rapport à la nature, c'est bien évident que c'est le suppôt, ce qui existe, ce qui subsiste, qui implique l'essai, simplicité, d'une façon absolue. est attribué simpliciter au suppos. Il est attribué à la nature que d'une manière particulière. C'est par la nature que, de fait, le suppos possède tel C. Le suppos ici va assumer, il implique la nature divine, et il assume la nature humaine. Mais il l'assume dans l'unité du suppos, dans l'unité de la personne. Puisqu'il l'assume dans l'unité de la personne, on comprend comment on dit immédiatement qu'il ne peut y avoir dans le Christ qu'un seul essai. Si la nature humaine du Christ, si la nature humaine du Christ n'était pas unie hypostatiquement à la nature divine, à ce moment-là, la nature humaine du Christ aurait son essai propre. Il y aurait l'essai du suppos et l'essai de la nature humaine. Mais puisque la nature humaine du Christ subsiste dans le suppos divin, cette nature humaine n'a pas d'essai propre. Je crois que l'article de Saint-Thomas est clair, hein. En référence des autres parties de Saint-Thomas, quand on se bagarre. Il faut d'abord regarder la somme. Hein. C'est la somme qui donne les choses d'une manière précise et simple. Si on a le temps, on pourra regarder un tout petit peu les autres. C'est intéressant, ça vaut la peine. Parce que c'est toujours intéressant de voir ça. Alors le père Patefort a répondu au père Nicolas, au nom de la tradition, mais pas au nom de la tradition, tout simplement, pour montrer qu'il ne peut pas y avoir deux essais. Et que si vous mettez deux essais, vous risquez toujours de ne plus voir l'unité fondamentale du Christ. Et c'est tout à fait dans le sens de la somme. Si vous mettez deux essais, vous risquez toujours d'hypostasier la nature humaine. D'hypostasier, de faire que la nature humaine a comme une hypostase propre. C'est-à-dire qu'elle existe pour elle-même. C'est ça l'hypostasie. Exister pour soi-même. C'est comme si la nature humaine existait pour elle-même, si elle avait son propre essai. Elle aurait son existence propre. Alors elle ne serait plus unie de la même manière avec l'unique suppos, l'unique personne du Christ, le Verbe. Pour sauvegarder l'unité, ça me semble très, très nettement la position de saint Thomas. Bon, alors voyons les objections.
C'est cette nouvelle relation d'un essai personnel à la nature humaine qui donne prise à...
Oui, d'une certaine manière. Mais jusqu'où pouvez-vous aller ? C'est la question.
Oui. Si on regarde l'essai comme un mode d'exister, une manière d'exister, on peut dire qu'il y a deux manières d'exister.
Mais l'essai n'est pas une manière d'exister. La manière d'exister, c'est la subsistance. L'essai n'est pas... Ah, qu'est-ce que c'est qu'essai ? Actus essendi. Métaphysiquement, je ne peux pas dire autre chose. Point de vue théologique.
Mais si on l'entend comme manière d'exister...
Est-ce que vous pouvez entendre l'essai comme manière d'exister ?
À supposer que... On peut dire qu'il y a des essais.
À supposer que, mais c'est plus que c'est pas l'essai. Si je prends le point de vue du langage propre de l'essai, c'est actus essendi, l'acte d'être. Et c'est ça qui fait l'unité. C'est pas la manière d'exister qui suit l'essai. Vous voyez, toujours, saint Thomas fait toujours la relation, tout le temps, l'âme et l'être.
Et dans la pensée de ce pour qui essai
également. Ah, bien joué, mais alors, attends, vas-y, vous allez me
donner. Non, d'accord, mais il faut quand même comprendre un peu pourquoi on affirme.
Ah, il faut comprendre, oui, d'accord, mais il faut d'abord comprendre la vérité pour comprendre l'erreur. Si je me mets trop du côté de ceux qui affirment, on veut dire certains amis, alors j'oublie. S'ils emploient un langage métaphysique qui a sa signification, vous n'avez pas le droit d'employer ce langage métaphysique en lui donnant une autre signification. C'est le problème de la confusion. Et il devrait dire ce problème-là, je ne peux pas, je ne suis pas métaphysicien. Je ne connais pas la théologie scientifique simplement. C'est ça qui est curieux, c'est ça qui est intéressant, c'est que ici, ça donne allusion au rationes, puisqu'il fait allusion à la convertibilité. Donc on est bien au niveau de rationes, on n'est pas au niveau des manières d'exister. L'un est pris au niveau convertible avec l'être. Donc l'un est pris comme acolyte de l'être. Donc c'est bien l'être, c'est bien le point de vue de ce qui est tout à fait essentiel. Si je prends le raisonnement de saint Thomas, j'essaie d'abord de comprendre ce que saint Thomas nous dit. Hein. Oui, c'est ça qu'il faut regarder. Hein. C'est regarder d'abord. Après, un autre problème sera de dire, en face de ceux qui disent qu'il y a deux essais, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que je dois dire, oh oui, vous pouvez le dire à peu près, oui, je vois très bien. Ah, non. Si j'emploie le langage propre de l'exister. Oui. Autrement, je tomberai dans le point de vue de l'existentialisme où l'essai n'est plus l'acte d'être, mais une manière d'exister. Oui. Alors je glisse vers le point de vue phénoménologique ou le point de vue psychologique. Bon. Alors voyons d'abord la première objection de Damasène. L'être suit la nature. Non pas en ce sens que la nature est ce qui possède l'être, mais en ce sens qu'elle est ce par quoi quelque chose est. L'être suit la personne ou l'hypostase parce que la personne est ce qui possède l'être. L'unité revient donc à l'être en raison de l'unique hypostase. Beaucoup plus que la dualité ne lui convient en raison des deux natures. C'est assez net, hein, alors voyez bien le texte. Ideo, magis, hein, soulignez le magis, retinet unitatem secundum unitatem hypostasis. Quoi? Abea dualitatem secundum dualitatem naturae. Alors vous allez me dire, au fond, saint Thomas là fait quand même une grande concession, puisqu'il dit magis plus. C'est plus correct de dire qu'il n'y a qu'un seul essai, mais à la rigueur, en regardant le cours, on peut dire qu'il y a deux essais. Hein? Saint Thomas reconnaît, c'est sûr, au point de vue de l'analyse, c'est le quod et le quo. Et tout est là. Alors, si vous isolez la nature du quad, vous l'hypostasiez, alors vous retournez sur le problème, deux hypostases, une personne. Ça devrait être formel là-dessus, et ça, c'est presque contraire à la foi. Pas à dire deux essais. L'Église n'a jamais rien dit là-dessus. Mais deux hypostases et une personne, ça, c'est presque contraire à la foi. Parce que c'est introduire une dualité dans le Christ qui fait que la personne humaine a comme une certaine autonomie. Alors, vous voyez tout de suite un second objection. En outre, l'être du Fils de Dieu, c'est la nature divine elle-même. C'est un être éternel. L'être humain du Christ ne saurait être la nature divine. C'est un être temporel. Il n'y a donc pas une idée d'être dans le Christ. C'est vrai que ça va très loin quand je dis l'idée d'être dans le Christ. Hein. C'est l'essai divin qui est l'acte d'être de l'homme. Mais comme je n'ai pas l'expérience de l'essai, vous voyez bien, c'est pour la même chose, je n'ai pas l'expérience de l'essai. Si j'avais l'expérience de l'essai participer, en voyant le Christ, je dirais essai divin. On n'a pas l'expérience de l'essai. L'essai échappe à notre expérience. Elle est au-delà de l'expérience. Seule l'intelligence atteint l'essai. Comme actus.
On parlait d'un essai participé au niveau du Christ.
Qu'est-ce qu'il y a?
On parlait d'un essai participé au niveau
du Christ. C'est justement ce qu'ils disent quand il y a deux essais. Il faut y un essai participé. S'il y a deux essais, il y a un essai participé. Il y en a un qui est simple, qui est celui qui, est Dieu, qui se rattache à la nature divine, et l'autre est participé.
Mais en réalité, est-ce qu'il y a une participation dans le Christ? La nature elle-même.
C'est ce qu'ils disent.
C'est ce qu'ils disent.
Ils disent que la nature divine, la nature humaine, participe, essaie. Et elle a un essai unique, tout à fait particulier, parce qu'elle participe. Je dis non, parce que la nature subsiste dans le suppôt, et c'est par le suppôt qu'elle est reliée à l'essai. L'être éternel du Fils de Dieu, qui n'est autre que la nature divine, devient l'être de l'homme, en tant précisément que la nature humaine est assumée par le Fils de Dieu dans l'unité de la personne. Ilud esse eternum, fide, quod est divina natura. Fit esse hominis, in quantum natura humana assumitu. Donc il devient esse. Alors, tout dépend de fit. Si vous faites le fit père participationnel, ou si vous faites le fit dans l'unité même de l'être. Évidemment, tout l'article tend vers l'unité, hein, parce qu'il le dit bien. Fit esse hominis in quantum natura humana assumitura filio Dei in vitatem personae, dans l'unité de la personne. Oui, c'est dans l'unité de la personne. Mais la personne est tellement liée, enfin, l'essai est lié tellement à la personne, pouvons-nous mettre une différence là ? C'est ça la question, au point de vue scientifique, de la théologie scientifique. Troisième objection. Par ailleurs, dans la Trinité, bien qu'il y ait trois personnes, il n'y a cependant qu'un seul être, en raison de l'unité de la nature. Dès lors, dans le Christ, malgré l'unité de personne, il y aura deux êtres en raison de la dualité de la nature. Ça, c'est très joli comme objection. C'est une objection, j'allais dire, théologique très belle. Hein. Pourquoi d'un côté, vous faites appel à la nature, et de l'autre côté, vous faites appel à la personne hein. Quand il s'agit de la très sainte Trinité, vous dites un seul essai, parce qu'il y a une seule nature. Et quand vous dites, par rapport au mystère du Christ, un seul essai, parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Oui, c'est très très joli. Donc, hein, vous êtes chat avec les chats et chien avec les chiens, n'est-ce pas ? Vous tirez les ficelles des deux côtés. En Dieu, dans la très sainte Trinité, un seul essai, parce qu'il n'y a qu'une seule nature. Dans le Christ, un seul essai, parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Alors, réponse à Thomas. Il a dû être content de trouver cette petite objection, parce qu'elle est astucieuse. Elle est astucieuse, elle est très très jolie. Vous voyez tout de suite la réponse, hein, j'espère. Comme nous l'avons dit dans la première partie, la personne divine étant identique à sa nature, on ne saurait distinguer dans les personnes divines l'être de la personne et l'être de la nature. Espèce de gros nigo, hein. C'est ça qui veut répondre. C'est pourquoi les trois personnes ont un être unique. Il en serait autrement si, en chacune d'elles, l'être de la personne était autre que celui de la nature. Or, dans le Christ, autre chose c'est sa nature, autre chose c'est sa personne. Mais c'est très joli comme objection. Quatrième objection. Enfin, dans le Christ, l'âme donne un certain être au corps, puisqu'elle en est la forme. Mais elle ne lui donne pas un être divin qui serait incréé. Elle lui confère donc un autre être distinct de l'être divin. Hein ? Poussez jusqu'au bout la forme, c'est sûr. Normalement, vous existez à cause de votre forme, à cause de votre âme. Vous existez à cause de votre âme. Mais le Christ, il a une âme. Puisqu'il a une âme, il existe donc grâce à son âme. Et donc, il y a donc un essai au niveau de son âme et un essai qui vient du Verbe. Alors, dans le Christ, l'âme donne l'être au corps, en ce sens qu'elle le rend animé en acte. lui donnant par là le complément de sa nature spécifique. Mais si nous concevons un corps achevé par l'âme, sans que l'hypostase vienne terminer l'un et l'autre, ce tout composé d'une âme et d'un corps, auquel nous donnons le nom d'humanité, ne devra pas s'entendre comme quelque chose qui est, mais comme ce par quoi quelque chose est. En un mot, l'être à proprement parler revient à la personne subsistante en tant qu'elle possède une relation à telle nature. Et dans le cas présent, cette relation est produite par l'âme du simple fait que celle-ci achève la nature humaine en informant le corps. Alors vous réfléchirez bien là-dessus. C'est un très très beau sujet. C'est vrai, c'est très intéressant à bien voir. Alors si vous voulez lire le père Nicolas, vous aurez de bons arguments pour revenir armé avec des textes. Et vous lirez le père Padfort après, et vous aurez d'autres arguments pour voir qu'on se bataille avec des textes.